Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cette nouvelle édition de Vie et mort de la Yougoslavie, Paul Gard propose une synthèse historique et analytique consacrée aux territoires réunis sous le nom de Yougoslavie, de la création du royaume des Serbes, croates et slovènes en 1918 jusqu'à la dissolution de la fédération et à ses prolongements tragiques, notamment au Kosovo. L'ouvrage relève à la fois de l'essai historique, de l'étude politique et du guide de compréhension d'une région, souvent réduite à des simplifications ethniques. Slavisant et connaisseur de longue date des Balkans, Gard mobilise l'histoire, les langues, les religions, les institutions et les expériences politiques distinctes des peuples concernés. Son objectif n'est pas de présenter la guerre des années 1990 comme l'effet mécanique de haines ancestrales, mais de restituer la pluralité des trajectoires qui rendaient l'unité yougoslave difficile et sa crise particulièrement violente. Le livre fournit ainsi des repères chronologiques et culturels pour situer les indépendances, les conflits et les antagonismes apparus lors de la fin du régime fédéral. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de l'unification de 1918 à une construction étatique durablement contestée. Le premier apport de l'ouvrage est de replacer la Yougoslavie dans une durée longue plutôt que de commencer avec les guerres de 1991. Paul Gard remonte à la fondation, après la Première Guerre mondiale, du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, devenu ensuite royaume de Yougoslavie. Cette origine permet de comprendre que l'État commun ne naît pas d'une population politiquement homogène, mais de la réunion de territoires ayant connu des cadres impériaux, administratifs et culturels différents. L'enjeu n'est donc pas seulement la coexistence de groupes nationaux, il concerne aussi la manière de concevoir l'autorité centrale, la représentation politique et l'équilibre entre unité et autonomie. Cette perspective historique évite deux lectures insuffisantes. La première ferait de la Yougoslavie une parenthèse entièrement artificielle. La seconde la présenterait comme une communauté naturellement appelée à durer. Gard montre plutôt qu'elle fut un projet politique réel, porté par l'idée d'une parenté sud-slave, mais sans cesse exposée à des divergences concrètes entre ses composantes. Les conflits ultérieurs prennent alors un autre sens, ils ne surgissent pas dans un vide historique et ne peuvent être attribués à une seule cause immédiate, en suivant les transformations de l'État avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Le livre donne au lecteur les éléments nécessaires pour mesurer à la fois les ambitions de l'unification et les fragilités institutionnelles qu'elle n'a jamais entièrement résolues. Deuxièmement, la diversité linguistique, religieuse et historique comme données politiques, Paul Gard accorde une place importante aux langues, aux appartenances religieuses et aux répartitions ethniques. Ce choix découle de sa compétence de linguiste slave, mais il ne réduit pas ces questions à un inventaire culturel. Dans l'espace yougoslave, les proximités linguistiques pouvaient nourrir un imaginaire commun, tandis que les différences d'alphabet, de tradition littéraire, de confession et d'héritage historique contribuaient à distinguer les communautés. Comprendre ces données permet d'éviter de confondre proximité de langue et accord politique, ou diversité culturelle et conflits inévitables. L'intérêt de cette approche est méthodologique. Les catégories telles que Serbes, Croates, Musulmans de Bosnie, Slovènes, Macédoniens ou Monténégrins ne prennent pas le même sens selon les périodes, les régions et les institutions qui les encadrent. Les appartenances peuvent être vécues simultanément à l'échelle locale, religieuse, nationale et fédérale. Lorsque l'ordre politique se fragilise, ces repères deviennent plus facilement des instruments de mobilisation et de concurrence. Gard aide ainsi à distinguer les faits de langue, les identifications collectives et les usages politiques qui en sont faits. La partie linguistique peut demander une attention soutenue aux lecteurs non familiers des langues slaves. Elle constitue néanmoins une précaution contre les raccourcis. Le livre rappelle que les mots employés pour désigner peuple et langue et territoire sont eux-mêmes chargés d'histoire. Cette précision culturelle éclaire les malentendus qui entourent fréquemment la question yougoslave. Troisièmement, des républiques aux trajectoires politiques inégalement démocratisées, l'analyse de Paul Gard ne traite pas la fédération yougoslave comme un bloc uniforme. Elle distingue les 6 républiques, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro et Macédoine, ainsi que le statut particulier de la Voïvodine et du Kosovo. Cette différenciation est essentielle, car les crises de la fin des années 1980 et du début des années 1990 se déroulent dans des espaces dont les rapports au communisme, au pluralisme et au pouvoir fédéral ne sont pas identiques, selon la lecture mise en avant dans le livre. La Slovénie et la Croatie sont davantage engagées vers une transition de type libéral et parlementaire, tandis que la Serbie et le Monténégro conservent plus fortement des pratiques autoritaires et des continuités avec l'ancien système. La Bosnie-Herzégovine et la Macédoine apparaissent comme des cas plus intermédiaires ou mixtes. cette grille n'implique pas que chaque république soit réductible à une étiquette politique stable. Elle sert à expliquer pourquoi les réponses à l'effondrement du cadre fédéral ont divergé. Le point décisif est que les désaccords ne portaient pas uniquement sur des frontières ou des mémoires nationales. Ils concernaient également la définition de l'État légitime fédération réformée, souveraineté des républiques, centralisation, multipartisme ou maintien de structures de pouvoir héritées. Cette comparaison des régimes évite donc de présenter la désintégration comme une pure explosion identitaire. Elle fait ressortir l'importance des choix institutionnels et de l'inégale démocratisation dans la transformation d'une crise fédérale en affrontement ouvert. Quatrièmement, la désintégration de 1991, une crise fédérale devenue guerre, le livre examine la rupture de 1991 comme l'aboutissement d'une crise politique, nationale et institutionnelle, non comme un événement isolé. La disparition progressive d'un cadre fédéral capable d'arbitrer les conflits rend plus aiguës les oppositions entre autorités républicaines, populations minoritaires et projets de souveraineté concurrents. Dans ce contexte, les proclamations d'indépendance et les réactions armées ne peuvent être comprises sans tenir compte de la distribution territoriale des populations et de la question du contrôle. Des institutions. Garde insiste sur la nécessité de conserver plusieurs niveaux d'analyse. Les guerres impliquent des acteurs politiques, des appareils de pouvoir, des choix militaires et des propagandes. Mais elles touchent aussi des sociétés où les populations étaient souvent mêlées. La Bosnie-Herzégovine illustre particulièrement la difficulté de faire coïncider une frontière politique avec des appartenances multiples et imbriquées. Le terme de « divorce sanglant » associé au livre souligne ainsi que la séparation d'un État fédéral n'a pas suivi une simple logique administrative. Cette mise en contexte aide le lecteur à aborder des informations souvent contradictoires sans adopter trop vite une explication monocausale. Les récits qui invoquent exclusivement la religion, l'ethnicité, le nationalisme ou l'intervention extérieure ne suffisent pas à rendre compte de l'ensemble. L'ouvrage privilégie une lecture où les héritages historiques rencontrent la crise du système politique et les décisions prises par les dirigeants au moment de l'effondrement. Il propose des repères pour analyser les conflits sans en banaliser la violence ni en simplifier les responsabilités. En dernier lieu, Le Kosovo et les limites d'une histoire arrêtée à la fin de la Fédération, la nouvelle édition est complétée jusqu'aux événements tragiques du Kosovo. Cet ajout est important, car il empêche de considérer la fin de la Yougoslavie en 1991 comme une conclusion nette. La dissolution de la Fédération a ouvert ou ravivé des questions de souveraineté, d'autonomie et de protection des populations qui se sont poursuivies bien au-delà des premières indépendances. Le Kosovo occupe une place particulière dans cette histoire en raison de son statut au sein de la Serbie fédérée, de sa population majoritairement albanaise et de la charge symbolique que ce territoire a acquise dans le nationalisme serbe. L'intérêt du traitement de cette séquence est de montrer que les problèmes laissés par la recomposition des États ne se résument pas à la reconnaissance internationale de nouvelles frontières. Une frontière reconnue ne règle pas automatiquement les rapports entre majorité et minorité, les revendications d'autonomie ni les mémoires opposées. Le Kosovo fait donc apparaître les limites pratiques de toute solution qui ne prendrait en compte que l'échelle étatique, dans l'économie générale de l'ouvrage. Ce prolongement confirme la méthode de garde reliée les événements les plus récents aux structures historiques, linguistiques et institutionnelles précédemment exposées. Il ne s'agit pas de faire du Kosovo la clé unique de l'histoire yougoslave, mais d'y voir un cas qui concentre plusieurs de ces tensions statuts territoriales contestées. Concurrence des récits nationaux, rapport difficile entre centralisation et autonomie, et effet durable de l'effondrement fédéral. Cette continuité chronologique renforce la valeur du livre comme instrument de contextualisation. En conclusion, Vie et mort de la Yougoslavie s'adresse en priorité aux lecteurs qui cherchent une entrée sérieuse dans l'histoire de l'ex-Yougoslavie étudiant. Lecteurs d'histoire contemporaine, observateurs des Balkans ou personnes souhaitant replacer les guerres des années 1990 dans un cadre plus vaste. Il sera particulièrement utile à ceux qui veulent dépasser les explications rapides fondées sur des antagonismes ethniques immémoriaux. La lecture apporte des repères pour distinguer les héritages culturels des usages politiques de l'identité, les différences entre républiques et les mécanismes institutionnels de la désagrégation fédérale. L'ouvrage se distingue dans sa catégorie par la combinaison de plusieurs échelles d'analyse. Là où des synthèses privilégient uniquement la chronologie militaire ou la diplomatie internationale, Paul Garde articule la formation de l'État, la pluralité des peuples, les questions linguistiques et religieuses, ainsi que les évolutions contrastées des régimes politiques. Son expérience de spécialiste des langues slaves et sa connaissance ancienne de la région donnent une place notable à des dimensions souvent négligées, sans qu'elles soient présentées comme des fatalités. Cette richesse explique aussi l'exigence de certains passages, notamment linguistiques. Mais elle constitue le bénéfice intellectuel central du livre, il apprend à lire la question yougoslave comme une réalité complexe, traversée par des rapports de pouvoir et des choix historiques. Pour qui accepte cette densité, cette nouvelle édition demeure une synthèse solide et utile. Prolongée par l'examen du Kosovo, pour comprendre les continuités qui survivent à la disparition de la Yougoslavie. Si vous souhaitez soutenir Paul Garde, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.